01 45 24 7000. Vos questions, vos réactions sur franceinter.com.
Bonsoir à tous. Ne dites plus buzz, dites ramdam. Ne dites plus airbag, mais sac gonflable. Voilà quelques-unes des dernières tentatives pour tenter d'enrayer l'envahisseur anglo-américain dans notre langue française. Des tentatives courageuses, mais qui semblent un peu dérisoires tant la langue anglaise, en tout cas l'idiome qui en tient lieu, a pris une place prépondérante en France et dans le monde entier. Il est loin l'invention du mot franglais par Étiamble, billettiste bordelais. C'était en 1964. Près de 50 ans après, l'anglais est la seule langue qui permet aux hommes de se comprendre tant bien que mal partout dans le monde, surtout depuis la généralisation d'Internet. Alors doit-on considérer ce phénomène comme irréversible? Doit-on s'y adapter? Doit-on lutter contre, comme le font si bien les Canadiens français? Quels sont les moyens pour garder notre identité linguistique et culturelle? Telles sont quelques-unes des questions que nous allons traiter ce soir avec nos invités. Corinne Mallarmé-Mazzocchi, administrateur à l'association Défense de la langue française. Roland Breton, linguiste, écrivain, ancien professeur de géographie, qui a publié en 2003 un atlas des langues du monde aux éditions Autrement. Il est par téléphone. Bonsoir, monsieur Breton.
Bonsoir.
Xavier Norse, qui est délégué général à la délégation générale à la langue française et aux langues de France. Ça fait beaucoup de général. Et Mercedes Serra, qui est présidente exécutive d'Euro-RSCG Worldwide, c'est un terme anglais effectivement, et directrice générale d'Avas. Merci madame de nous avoir rejoint.
01 45 24 7000.
Bonsoir. Gaston, qui nous appelle d'Avignon.
Oui.
Oui, eh bien, nous vous écoutons.
Bonsoir. Et je voudrais d'abord remercier France Inter pour avoir programmé cette émission sur le tout anglais, encore que la période estivale ne soit pas la plus propice, dans la mesure où il s'agit d'un sujet d'une réelle gravité, et pas seulement un sujet de vacances. Mais enfin, ne faisons pas la fine
bouche. Tout le monde n'est pas en vacances, monsieur Pellet.
Ne faisons pas la fine bouche. En tous les cas, jusque-là, les médias ont été plutôt porte-close et, à part le monde diplomatique et, dans une certaine mesure, l'humanité, je pourrais y revenir. Mais donc, très bien, merci d'aborder ce sujet très, très important.
Je vois que vous êtes membre d'une association de défense de la langue française.
Exactement, oui, c'est une jeune association qui s'appelle Courriel, vous voyez l'allusion,
oui.
Et par email, et une association qui est plutôt positionnée à gauche, ce qui est aussi un peu original dans le paysage des associations de défense de la langue française.
Parce que vous pensez que la défense de la langue française, c'est plutôt une idée de droite ?
C'est pas une idée de droite, mais c'est un fait que jusque-là, on avait beaucoup d'associations qui se positionnaient plutôt à droite. Mais nous pensons que la langue française doit être défendue et notamment, si vous voulez, si vous me permettez que je...
Je voudrais savoir d'abord comment vous défendez la langue française, monsieur, à votre niveau.
Eh bien, déjà, nous avons deux sites. Un site qui s'appelle le site de Courriel et puis un manifeste que l'on a publié il y a maintenant 3 ans, que l'on propose à la signature et qui d'ailleurs recueille déjà maintenant plusieurs milliers de signatures, dont des noms très connu et beaucoup d'enseignants, beaucoup de même, y compris d'ailleurs des gens de langue étrangère.
D'accord. Mais vous défendez cette langue française auprès de qui? Auprès des jeunes, auprès des personnes de votre entourage, auprès des internautes?
Non, mais nous on défend la langue française d'une manière générale. Et par exemple, si vous voulez, comme action, on a eu différentes actions jusque-là.
Oui.
Par exemple, l'année dernière, on a organisé un débat sur la langue française dans le cadre et avec le partenariat du Festival d'Avignon. qui a eu un assez grand succès. Et beaucoup de gens sont intéressés par ce problème parce que on sent très bien qu'il y a un problème, n'est-ce pas ?
Très bien, merci, merci beaucoup. Merci.
On a participé dernièrement à cette manifestation du 18 juin avec beaucoup d'autres associations. Vous avez sans doute connu cette manifestation. Et voilà, donc on essaye de participer de différentes manières.
Très bien, merci pour votre témoignage, Gaston. Finalement, Corinne Mallarmé-Mazzocchi, cet engagement pour la défense de la langue française, est-ce que ce n'est pas un combat d'arrière-garde ?
Écoutez, je ne le pense pas. Je reviens sur ce que disait notre auditeur. Je crois vraiment que s'il y a une chose qu'on ne peut pas classer ni à droite, ni à gauche, ni au centre, c'est vraiment la langue française. Je crois, j'en veux pour preuve que tout, y compris des organismes alors vraiment politiques, dans des entreprises, des syndicats par exemple, qui se sont groupés pour pouvoir travailler dans leur langue. Donc dire que c'est à droite, à gauche, enfin pour moi non. Notre but n'est pas tellement de figer la langue, parce que s'il s'agissait du français et de l'anglais, bon. Mais là, il s'agit du franglais. Je crois que c'est le titre de votre émission.
Oui.
C'est-à-dire que c'est
j'ai
ni du français...
J'ai emprunté ce mot à Étienne.
N'en parlez-vous franglais.
Oui, exactement. Oui.
Ce n'est ni l'un ni l'autre. Quand vous avez des exemples comme, je ne sais pas moi, initié, peut-être pas bon mot, initié ou généré. Oui. Initié veut dire une chose en anglais. En français, ça n'a pas du tout le même sens. Pour générer, c'est la même chose. Il y a une foule d'autres verbes, entraîner, je ne sais pas moi, engendrer,
nominer,
causer.
Nominer, maintenant, qu'on entend.
N'en parlons même pas, mais je ne sais même pas si c'est un anglicisme, nominer. Mais si vous voulez, quand le mot existe, moi je pense à ce mot qui me fait toujours hurler, c'est « challenge ». Qui est d'ailleurs un vieux mot français que personne ne connaît d'ailleurs, qui est challenge. Et les gens disent challenge, ça n'est pas adapté à notre langue, ça n'est pas adapté à notre présent. Et nous avons un mot court qui est défi, qui nous convient, qui est français. Pourquoi ne pas utiliser notre mot, enfin le mot français, quand il existe ? C'est ça qui risque d'appauvrir la langue.
Xavier Nors, il n'y a pas un snobisme finalement pour d'utiliser des mots anglais ou...
Ce sont souvent des effets de mode et qui disparaissent le printemps venu, je veux dire au bout de quelques années. Je crois que Marcel Proust écrit quelque part « Swann était très smart dans sa dinner jacket ». On ne dirait plus ça aujourd'hui, évidemment. Le mot « smart » a complètement disparu de la langue.
Oui.
Donc je crois qu'il ne faut pas surestimer ce phénomène des emprunts. Il ne faut pas le sous-estimer non plus, nous y reviendrons peut-être tout à l'heure. Et il ne faut pas le surestimer parce que un grand nombre de ces mots vont disparaître assez naturellement de la langue. Vous avez certainement oublié qu'il y a une dizaine d'années, vous disiez « doping ». Alors qu'aujourd'hui, tout le monde dit « dopage ». Mmh. Le mot « doping » a été chassé de la langue, il a été comme recraché de la langue française. Et ça n'est pas un phénomène nouveau, historiquement. La langue française n'a cessé d'emprunter à toutes les langues du monde. Au XVIe siècle, par exemple, elle a emprunté des centaines de mots italiens. Eh bien, un grand nombre de ces mots italiens sont repartis de la langue française. Un certain nombre d'entre eux sont restés, comme « violon », par exemple, ou « ballet ».
Salia nous appelle, bonsoir.
Oui, bonsoir. Alors donc, moi, je vais un petit peu rebondir sur ce que viennent de dire vos deux intervenants. Donc, je suis angliciste, j'enseigne la traduction, entre autres, économique et commerciale. Et donc, alors, avant tout, ce que je souhaiterais dire, c'est que l'anglais regorge de termes empruntés au français, hein, dans d'innombrables domaines,
c'est
la
exact.
Littérature, le domaine culinaire, etc. Donc, je voudrais peut-être j'aimerais qu'on arrête un peu de fustiger l'anglais. Alors, ceci étant, là, j'abonde tout à fait dans le sens de tous les intervenants. Je constate donc moi, en tant qu'enseignante de traduction, le franglais qui est vraiment une plaie de notre société. Et donc moi, ce que je remets en cause, c'est des termes qui ont des équivalents. Et alors là, France Inter, vous êtes aussi assez fort dans ce domaine-là. J'ai souvent entendu que ce soit des journalistes ou des présentateurs, probablement parce qu'ils vont trop vite, utiliser le mot prime time alors qu'on a heure de grande écoute. Best of, brainstorming, l'administration Obama, alors qu'on a, hein, il faut dire gouvernement, bref, et j'en passe. Et alors, ce que je voudrais demander à vos intervenants, et donc moi, si vous voulez, j'ai cette difficulté en traduction, c'est quand je corrige les copies de mes étudiants, ben, je dis, ben non, ça, c'est du franglais, etc. Mais ils le trouvent dans les dictionnaires français. Donc apparemment, les dictionnaires qui j'ai l'impression, essayent de coller un peu aux modes les plus récentes, font figurer des termes anglais. Et donc là, moi, j'avoue que ça me gêne un petit peu. Et donc d'expliquer aux étudiants, écoutez, en traduction, moi, je vous recommande de toujours employer le mot d'origine française quand il existe. Voilà.
Très bien, merci beaucoup. Roland Breton, vous êtes au téléphone avec nous. Alors, vous êtes linguiste et écrivain. Est-ce que les dictionnaires ont une responsabilité dans dans l'extension du franglais ?
Oh non, je ne crois pas du tout. C'est pas du tout les dictionnaires. C'est simplement le léger bilinguisme de beaucoup de nos compatriotes qui font des emprunts occasionnels à l'anglais. Mais toutes les langues s'interpénètrent, et l'anglais et le français depuis des siècles. Donc, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pas une menace. Le français est, comme l'anglais, la seule langue qui soit diffusée à travers le monde entier, à la fois comme langue officielle de certains États, territoires, etc., et comme langue installée dans l'enseignement. Donc je ne suis pas du tout pessimiste, et je pense que ça fait partie de la vitalité du français.
Très bien. Marcel Serra. Alors vous êtes publicitaire, vous dirigez de grandes agences de publicité partout qui font de la publicité et des campagnes partout dans le monde. On vous dit souvent que la publicité est responsable de l'introduction de mots anglais dans la langue française. Est-ce que vous vous sentez coupable ?
Non, d'abord, on ne me dit pas ça. Donc, c'est beaucoup plus positif que ça. Après, bien sûr, mais je viens d'entendre un commentaire qui est assez proche de ce que je ressens. Je pense que d'abord, c'est un vrai sujet que d'aider cette langue française à rester claire. Et il n'y a pas de raison de préférer des mots moyens ou pas compliqués, mais qui compliquent la chose, lorsqu'on a des mots français. Simplement pour dire que quand même, je suis sensible au fait qu'une langue évolue, qu'on aura beau se mettre tous ensemble autour d'une pièce et dire « ça sera non », les gens ont un vrai pouvoir pour faire évoluer la langue.
Oui.
Et que cette langue française, son histoire raconte cette évolution. J'étais moi-même professeur de français et je me souvenais qu'on m'avait raconté que flirter venait de compter fleurette, hein, et que cela avait fait un tour du côté des Anglais pour revenir du côté des Français. Donc je pense qu'il faut être équilibré. Il y a absolument un enjeu de niveau de langue pour moi à maintenir, et je suis sensible à cela, mais il y a aussi un enjeu d'histoire des langues, et l'histoire des langues n'est pas une histoire figée. On a en français 13% des mots français qui sont d'origine étrangère. Pour tout vous dire, les mots anglais, il y en a 25% qui viennent d'origine étrangère, donc je pense que c'est pas une positivité que de dire à une langue, tout d'un coup, on arrête cela. Après, la façon dont on procède, je voulais juste vous dire que, par exemple, le bulldog ou le paquebot ou la redingote, qui me semblaient pour moi des mots français, sembleraient venir très fortement du reading coat,
oui,
et des choses de cet ordre qui montrent...
Avec cette différence, c'est qu'ils se sont malgré tout installés dans la langue et la langue les a assimilés en quelque sorte. La langue les a assimilés à la fois graphiquement et surtout phonétiquement. Or, ce qui se passe aujourd'hui, c'est pourquoi il ne faut pas non plus sous-estimer le phénomène, c'est que les mots anglais s'installent dans la langue sans s'assimiler au système phonétique de la langue française. Par exemple, vous dites une standing ovation, alors même que ovation est un mot d'origine française, ovation, vous ne dites pas standing ovation, vous dites standing ovation. C'est-à-dire que les mots anglais sont purement et simplement empruntés sans s'installer, sans s'assimiler dans la langue française. Et ça, c'est un phénomène relativement nouveau. Parce que ce qu'il faut remarquer, ce qu'il faut souligner, c'est que ces emprunts à l'anglais, aujourd'hui, sont massifs. Ils sont massifs. Le français a plus emprunté à l'anglais au cours des 15 dernières années qu'au cours de la totalité du siècle écoulé. Et d'autre part, ce sont des emprunts préférentiels. C'est-à-dire que le français n'emprunte plus qu'à l'anglais, en quelque sorte, et très peu aux autres langues. Ouais. Un peu à l'arabe, compte tenu des flux migratoires, mais
un peu à l'espagnol aussi.
Un peu à l'espagnol, mais surtout et massivement à l'anglais. Et c'est ça qui est nouveau. Et ces emprunts, d'ailleurs, ne concernent pas simplement les mots. C'est un phénomène qui est beaucoup plus complexe. Il concerne aussi la syntaxe. Il y a des quantités de mots avec des terminaisons en ing, par exemple.
Enfin, oui, le merchandising, etc. Voilà. On connaît beaucoup, évidemment.
Et même de faux anglicismes. L'exemple cardinal étant smoking, qui n'existe pas en anglais. C'est un faux anglicisme. Et on voit apparaître, par exemple, le mot fooding, qui d'ailleurs, à mon avis, finira par disparaître.
Ne restera pas.
Et puis alors, de véritables calques sémantiques, c'est-à-dire qu'on calque purement et simplement en français des mots anglais. Par exemple, on dit « supporter » au lieu de « soutenir ».
Initié.
Absolument. Donc c'est un phénomène qu'il faut étudier dans sa globalité, si vous voulez.
Absolument, mais Internet accélère aussi ce phénomène d'invasion de l'anglo-américain.
Oui, Internet, enfin le développement général des communications, puisque l'anglais est très évidemment la langue de la mondialisation. Et recourir à des mots anglais, c'est aussi une façon de dire « nous sommes dans le grand bain global, nous sommes dans la mondialisation ». Donc, c'est aussi un phénomène qui, par certains côtés, est positif, parce que cela veut dire que les Français ne se replient pas sur eux-mêmes et veulent participer à cette grande évolution globale.
Nous avons beaucoup d'appels au standard. Olivier nous appelle d'Angoulême.
Oui, bonjour.
Bonsoir.
Bonsoir. Je vous remercie de prendre mon appel et vous remercier de la qualité de vos émissions.
Merci.
Et je voulais vous apporter simplement un témoignage. Après-demain, je retourne au Québec. J'y vais très souvent, régulièrement, et je voulais parler de, citer vraiment un témoignage, c'est-à-dire que les Québécois, ils ont une loi qui s'appelle la loi 101, je crois, de mémoire, dans leur constitution, c'est-à-dire la défense de la langue française, parce que pour eux, c'est une survie, hein, parce qu'ils sont entourés, c'est 6 millions de francophones entourés que d'anglophones, et donc on dit pas stop, on dit arrêt. On dit pas mail, on dit courriel.
On dit char aussi au lieu de voiture.
Voilà, c'est ça. Et puis, break. Ce que je voulais dire aussi, c'est que je voulais vous appeler pour défendre également la langue anglaise. Parce qu'en voyageant comme ça, je me suis rendu compte, moi j'ai appris l'anglais à l'école, vous voyez, un anglais académique, je ne le parle pas très bien, mais je me suis rendu compte qu'en me promenant à Montréal, quand vous rentrez maintenant des fois dans des cafés, vous avez affaire à une population, il y a beaucoup d'immigrés au Canada, et des gens qui parlent un anglais mais tellement pauvre et très, on va dire, un anglais yaourt, que moi je leur parle anglais mais je ne comprends pas la réponse, tellement l'anglais est dénaturé. Et c'est pour ça aussi que votre émission est intéressante, mais on défend le français. Mais aujourd'hui, les Anglais, est-ce que les Anglais, l'anglais en Angleterre, quand ils voient comment est utilisée sa langue aujourd'hui, est-ce qu'il en est vraiment. Il doit être un peu des fois, malheureux, quoi, parce que c'est des fois c'est catastrophique, quoi.
Effectivement, il y a une sorte de. Merci, Assérin, vous confirmez, une sorte de sabir, finalement.
D'abord, il faut imaginer ce qui nous arrive quand on travaille dans les entreprises. La langue anglaise est utilisée, c'est très difficile de parler français, tout simplement parce qu'on n'est pas compris. J'aimerais beaucoup pouvoir parler français, ça serait plus brillant qu'en anglais, mais on a un problème de passage obligé et de nécessité de compréhension. Et le monde entier est à cette même cadence, donc on parle un anglais qui est un anglais très médiocre, qui est un espèce d'espéranto global et mondial qui est compliqué. Mais je voulais juste suggérer deux choses. Pour moi, la problématique française et du français est très importante, mais en France, il me semble qu'on a deux grands sujets. Un premier grand sujet qui est comment est-ce qu'on continue à apprendre un beau français à tous nos Français. Et la deuxième chose, parce qu'il y a vraiment des enjeux à l'école, on a beaucoup baissé le temps des dictées, des choses, donc je ne sais plus très bien si on s'en occupe tant que ça. Et la deuxième chose, comment on fait pour apprendre l'anglais aux Français? Parce que pour aider une civilisation, pour aider notre propre culture, lorsqu'on ne peut pas passer par la langue de l'autre et qu'elle est obligatoire, ça n'aide pas les Français à aller de l'avant. Donc je crois qu'on a quand même des enjeux, me semble-t-il, très importants. Nous, on est soumis aux deux pressions. très envie de bien parler le français, mais on a aussi très envie de pouvoir bien parler l'anglais.
Corinne Mallarmé-Mazzocchi.
Oui, je voulais rebondir sur notre interlocuteur qui a été au Québec. J'ai vécu moi aussi au Québec et j'ai une théorie un peu personnelle parce que je l'ai vécu. Lorsque je suis arrivée au Québec, je disais, comme tout bon français, week-end, parking, shopping. Et puis au bout de quelques mois, je ne disais plus que fin de semaine, magasiné, stationné. Parce que je crois qu'il y a un environnement et une... ce sont des tics, en fait. Ouais. Et quand je suis revenue en France, au bout de quelques temps, j'ai repris week-end, magazine, etc. Je veux dire que ça n'est pas seulement, et c'est en cela que je ne sais pas qui a dit que vous, journaliste, aviez une importance. Si en fait le snobisme dont parlait Monsieur Nort et n'était pas un snobisme d'un anglais qui n'est pas un anglais, mais d'une belle langue, ça aurait aussi une belle importance. L'autre question dont parlait madame en disant il faut apprendre l'anglais, certes, mais pas seulement l'anglais. Bentolila vous dirait qu'il faut que les enfants apprennent une seconde langue quand ils sont tout petits, mais surtout pas l'anglais. Pourquoi ? Parce que l'anglais, ils l'apprendront de toute façon. Il faudra de toute façon qu'ils le parlent. Et ils l'apprendront quand ils seront plus grands. En revanche, si on apprend une langue étrangère, petit, après, n'importe quelle langue, la langue de la famille, arabe, italien, allemand, ce que vous voulez, après, l'enfant va apprendre l'anglais facilement et beaucoup d'autres langues facilement. Donc, cette focalisation de l'anglais tout petit, je suis très... mais ça nous éloigne du sujet.
Alors, Roland Breton, vous êtes donc linguiste, écrivain. Qu'est-ce que vous pensez, par exemple, des universités qui font des cursus tout en anglais maintenant ?
Ah non, alors là, je trouve que si ça se fait en France, c'est excessif. Mais je crois que de toute façon, la question se pose au niveau de la première, seconde langue qu'on apprend. Ça, c'est vrai qu'il faut apprendre, si possible, une deuxième langue le plus tôt dans l'âge de l'enfance, parce que ça donne des capacités pour en apprendre d'autres par la suite. Et donc... comme en France, c'est surtout l'anglais, mais ça peut être dans certaines régions l'espagnol ou l'allemand. Il est très bon d'apprendre une langue étrangère tôt. Et ensuite, évidemment, il y a la pratique de cette langue qui évolue en fonction des besoins de la carrière de chaque individu.
Très bien. Bernard nous appelle des Landes. Bonsoir.
Oui, bonsoir, merci de prendre ma question. L'anglais est une belle langue nationale, comme le français et bien d'autres, mais ce n'est pas une langue mondiale. 90% des êtres humains ne parlent pas l'anglais. C'est une langue bourrée d'exceptions, qui est longue à apprendre et qui n'est pas équitable. Alors ma question est, pourquoi ne pas prendre en compte aussi une langue internationale auxiliaire équitable et facile, plus adaptée au monde multipolaire du 21e siècle, et que l'on peut apprendre sur Internet, qui est en plein essor, l'espéranto ? Il y a d'ailleurs une pétition Espéranto au bac qui est disponible sur Internet qui permettrait de la reconnaître comme option facultative au baccalauréat aux côtés d'une cinquantaine d'autres langues.
Merci Bernard. Effectivement, bah oui, il y a l'espéranto, mais il me semble de la SDN, non, c'est pas ça. C'était pas entre les deux guerres mondiales que l'espéranto avait été lancé, si l'on peut dire.
Il y a l'espéranto dont la Commission européenne ne recommande pas l'apprentissage parce que c'est une langue qui n'a pas été illustrée par des écrivains, des
productions.
C'est ça, par des productions culturelles.
Artificielles.
Mais je pense à part moi à cette expression du poète Michel Deguy qui parlait du désespéranto pour évoquer le globiche. Le globiche, qui est cet anglais international, cet anglais d'aéroport que tout un chacun baragouine dans des situations justement de communication internationale.
Alors que tout un chacun baragouine, il faut pas penser par exemple que quand on va en Chine ou même au Japon, tout le monde parle ce globiche, hein, malgré tout.
Mais hein, vous savez que moins de 3% des Japonais parlent une langue étrangère. Je crois que moins de 5% des Indiens, on pense que l'anglais est la langue
vernaculaire,
de l'Inde, une langue vernaculaire, mais moins de 5% d'anglais d'Indiens parlent l'anglais.
Michel nous appelle de Paris. Oui. Bonsoir.
Oui, bonjour. Merci de me donner la parole. Eh bien, moi, je voudrais quand même attirer l'attention, puisque nous sommes à France Inter, nous sommes une radio française. J'aimerais quand même que les journalistes de la radio française, au moins, parle français, n'utilise pas des mots, on parlait de stand ovation, bon, mais c'est tout à fait un mauvais goût, épouvantable, moi ça me révolte, et je me demande comment nos enfants peuvent-ils parler français avec un petit paraguinage.
Alors vous voyez que nous sommes masochistes puisque nous vous donnons la parole, oui. Michel.
Oui, mais il est bon de le dire.
Mais vous avez raison, vous rejoignez certains auditeurs, même plusieurs auditeurs, comme Josette par exemple, qui dit « Je ne suis pas américanophobe, mais je souhaiterais qu'une radio publique me permette d'avoir un accès de qualité à ma culture, et pas seulement en écoutant France Culture. Je constate qu'une radio de service public, au lieu de service de notre culture, fait de l'entrisme pour la culture anglo-saxonne. » Alors bon, c'est peut-être un peu exagéré, mais bon, c'est l'opinion d'un certain nombre d'auditeurs. Je vous assure qu'on essaye d'utiliser les termes français le plus souvent, mais c'est vrai que je m'aperçois d'ailleurs que dans la présentation de l'émission de ce soir, j'ai parlé de marketing, évidemment, mais est-ce qu'on peut le remplacer par marchandise
Étude de marché, non, c'est pas la même chose.
Voilà. Non, c'est un mot spécifique, alors c'est toujours difficile.
Ce qu'il faudrait peut-être dire, c'est que il ne faut pas qu'on ait l'impression qu'on s'arc-boute sur la langue française parce que c'est la plus belle. C'est une belle langue, c'est vrai. Bon. Mais c'est parce que la langue est le support d'une culture et d'une tradition. Quand notre auditeur parlait de l'espéranto, on peut discuter la valeur de l'espéranto, mais... Il n'est soutenu par rien. Il n'y a pas, comme disait M. Nort, il n'y a pas d'écriture, d'écrivain. Si nous attachons, et les Anglais s'attachent, les Anglais sont extrêmement malheureux de voir ce qu'on fait de leur langue. Si les Anglais et d'autres s'attachent à leur langue, c'est parce qu'il y a une tradition, que ce soit les chansons, les poèmes, et c'est ça qui soutient. Si vous supprimez la langue, vous supprimez la culture. Donc c'est pas tellement, vous me demandiez au début de l'émission si c'était tellement un combat d'arrière-garde, voilà.
Alors quand même, est-ce que ce phénomène du tout anglais est porté par la mondialisation de l'économie, ça sans doute, autrement dit par un phénomène presque mécanique, j'allais dire, ou par la diffusion d'une culture, même d'un mode de vie que certains envient d'ailleurs?
Pour moi, elle est clairement liée à une domination économique. Et d'ailleurs, c'est très difficile d'aller à l'encontre. Dans nos univers, lorsque l'on veut résister, on a intérêt à résister en anglais, sinon on n'est pas écouté. Donc, moi, je ne pense pas du tout que les Anglais sont tristes de voir leur langue abîmée. Je ne dis pas qu'il n'y a pas certains Anglais qui sont tristes, qu'on ne parle pas un anglais sophistiqué, mais ils sont quand même ravis que la langue d'usage, ce soit l'anglais. Car nous essayons, moi, je suis d'origine, dans un réseau d'origine française, à Vasse, nous sommes en France, nous essayons de parler à nos Américains en autre chose qu'en anglais, et c'est impossible. Et vous n'êtes quasiment, même y compris pour des grandes marques françaises, si vous parlez français, vous êtes considéré comme non international. Donc la définition de l'international devient parfois naïvement le fait de parler anglais. Donc je pense qu'on peut rêver, se dire que c'est pas comme ça, qu'on peut faire autrement. Moi, j'aurais tendance à recommander la double chose, qui est de continuer à très bien parler le français. C'est une langue magnifique, c'est notre culture. On doit protéger cette culture, elle est très importante, mais à la fois d'avoir la capacité de communiquer dans le monde des affaires, parce que le poids économique est quand même très important, et même d'exprimer cette culture dans d'autres langues que le français. Et je voudrais juste rajouter, parce qu'on parle d'une deuxième langue, moi je suis un peu concrète sur ça, les Français parlent très mal l'anglais. Donc les Indiens ne parlent pas beaucoup, ne sont pas très nombreux à parler anglais, mais je considère que l'enseignement de l'anglais en France est dramatique.
Je crois d'ailleurs que paradoxalement, si les Français avaient de meilleures compétences en anglais, ils seraient beaucoup plus tentés de défendre leur langue. On fustige souvent le comportement des hauts fonctionnaires français en situation de communication internationale. Vous savez qu'ils qui parlent l'anglais pour montrer justement qu'ils sont dans la mondialisation alors qu'ils le parlent mal. C'est en réalité le reflet d'un complexe.
J'ai même le souvenir de Jacques Chirac quittant une conférence à Bruxelles parce que le patron des patrons, M. Sellière, s'était exprimé en anglais.
Tout à fait, tout à fait. Oui, et je crois que le fait de parler plus d'une langue vous incite à illustrer la vôtre et à la parler à bon escient. Car ce n'est pas tout d'avoir des compétences linguistiques et de défendre la langue française, encore faut-il la parler quand il le faut. Et de temps en temps, parler la langue de son interlocuteur, en tenant compte aussi du rapport de force entre les langues. Parce que les langues sont prises dans des rapports de force, toutes. Il y a une langue hyper centrale, qui est l'anglo-américain, et puis il y a des langues centrales, dont le français, et le français ne se défend pas mal sur le plan international. Hein. C'est une langue qui est parlée par 220 millions de locuteurs. C'est la deuxième langue apprise dans le monde. C'est une langue qui est parlée sur les 5 continents. Et donc, nous devrions avoir confiance en notre langue. Parce qu'il y a un phénomène que je vous engage d'ailleurs à explorer à l'occasion d'une de vos émissions. Là, vous évoquez les emprunts à l'anglais. Mais si vous invoquiez les emprunts des autres langues au français, de toutes les langues au monde, c'est au français qu'on a le plus emprunté. Si les Français en avaient conscience, ils auraient beaucoup plus confiance en leur langue.
Malgré tout, en France, il y a une loi tout bon sur la défense de la langue française.
C'est un peu l'équivalent de la loi 101 que cet auditeur évoquait tout à l'heure.
La loi tout bon s'applique. On a beaucoup de difficultés à la faire appliquer parce que d'abord, les tribunaux sont surchargés. Il faut des preuves. C'est la loi tout bon, en un mot, c'est tout ce qui paraît en anglais doit être traduit pour être compris par tout le monde, que ce soit les modes d'emploi, les emballages, les titres de films. Voilà.
C'est surtout une loi qui a été très, très mal comprise et brocardée en son temps par la presse qui ne s'en est pas privée et qui continue à le faire, n'est-ce pas ? On appelait M. Toubon, M. Allgood.
Oui, c'est ça.
Mais c'est une loi qui dit une chose très simple, c'est une loi démocratique. C'est une loi qui dit ceci, c'est que, en tant que personne privée, vous pouvez parler toutes les langues que vous voulez dans notre pays. Vous pouvez parler le provençal, l'alsacien, le corse, l'anglais, pourquoi pas. Mais en tant que citoyen, c'est-à-dire en tant que partie de ce grand corps qu'est la République, vous avez un droit imprescriptible à vous exprimer en français et à recevoir une information en français. D'ailleurs, c'est une loi démocratique, ce n'est pas une loi frileuse, ce n'est pas une loi d'identité nationale, vous voulez. Oui. C'est une loi démocratique.
Les tribunaux ont d'ailleurs souvent donné raison, enfin toujours donné raison aux salariés qui avaient des modes d'emploi uniquement en anglais et qui commettaient des erreurs parce qu'ils avaient du mal à comprendre.
Qui ont parfois eu des conséquences catastrophiques. Oui. Hein, je pense à cette fameuse histoire, cette tragique histoire des irradiés d'Épinal qui avaient reçu des doses de radiation.
Et les entreprises, lorsque l'on leur fait des recommandations, avant même souvent nous leur écrivons, puisqu'il y a quelqu'un au sein de l'association qui s'en occupe, quand nous leur écrivons avant d'aller devant les tribunaux, souvent se plient à cette transformation.
Roland Breton veut intervenir. Roland Breton.
Alors, je veux insister sur le fait que la dynamique des langues permet à chacune des langues de jouer un rôle dans le monde. Et à ce niveau-là, on peut dire que le français est la deuxième langue internationale mondiale. Et que elle s'est bien défendue jusqu'ici, et qu'elle ait emprunté des mots à l'anglais, ça c'est normal, et l'anglais a emprunté au français encore plus. Mais ce qu'il faut voir, c'est que le français est supporté dans le monde entier par toutes sortes d'organisations qui font que cette langue se diffuse par la volonté des Français et de leurs administrations respectives. C'est quelque chose de très important et qui fait que le français ne doit pas s'alarmer que d'autres langues viennent, comme l'espagnol, le portugais, le chinois, etc. Parce que le français a quand même la deuxième place dans le monde comme diffusion.
Christine nous appelle de Paris. Bonsoir.
Bonjour à tous. Alors, moi, je voulais dire que, pour ma part, je suis moins préoccupée par l'importation de mots isolés, bon, qui peuvent être, je ne sais pas moi, buzz ou trash, par exemple, que par les slogans publicitaires que je vois fleurir un peu partout. Il suffit de se promener dans Paris. Alors là, il y en a deux qui me viennent à l'esprit. Une boîte d'intérim, j'ai oublié laquelle, qui affiche « Work for a better life », par exemple, qui est supposé s'adresser quand même à un public français, ou Europe Assistance, qui a adopté écouter You Live, We Care. Voilà. Ouais. Et voilà. Alors, il suffit de se promener dans Paris et on en voit de plus en plus. Et ça, je pense que ça, c'est un vrai danger. Là, ce sont des phrases complètes. Et on s'adresse à des consommateurs français. Ça, je trouve ça inadmissible.
Mercedes Serra.
Moi, je reprendrai simplement ce qu'on nous disions sur la loi Toubon, ce qui me semble aussi être une loi importante pour les métiers de publicitaire et qui me semble du registre très fort de quelque chose qui est démocratique, c'est-à-dire que tout le monde doit pouvoir comprendre. Donc, en effet, si les phrases sont énoncées en anglais sans traduction aucune, c'est difficile. Et donc, je rejoins le point de vue de cette auditrice.
Très bien, c'est pas le cas de tous les publicitaires, manifestement. Mais enfin...
Non, et puis même, nous-mêmes mais avons des pensez, difficultés.
Franchement, vous pensez qu'un slogan publicitaire en anglais est mieux perçu?
Non, ça dépend, c'est un peu compliqué. Par exemple, je vais vous citer un exemple qui, c'est pas moi qui m'en occupe, mais je suis contente de ne pas m'en occuper, parce que j'aurais pas trouvé la solution. Vous savez qu'il y a une très belle marque qui fait une marque de sport qui a fait de très belles campagnes de publicité et qui les a signées Just Do It. Mmh. Et là, j'ai vu apparaître des florilèges en essai de traduction. Et comme je pense qu'ils ont depuis longtemps mis les moyens pour essayer de trouver une traduction juste, ça doit être difficile. J'ai eu le droit à fais-le, vas-y, fais-le, faites-le. Et Just Do It, c'est juste un slogan. Magnifique quand on entend ce qu'il veut dire. Donc à ce moment-là, on est très mal à l'aise.
Un peu comme
mais
Yes We Can.
Un tout petit peu à l'envers. À l'envers, nous avons un très beau slogan pour une compagnie française qui dit faire du ciel le plus bel endroit de la terre et sur laquelle, pour y avoir moi-même travaillé, j'ai un mal fou à la dire en anglais.
Bravo.
Donc voilà des choses qui montrent que ces belles langues racontent des choses différentes et que la traduction, j'ai beaucoup de respect pour les traducteurs parce que quel métier difficile.
On prend une dernière question avec Camille qui nous appelle de Côte d'Or. Bonsoir.
Oui, bonsoir.
Oui, nous vous écoutons, allez-y.
D'accord, bonsoir. Donc, merci de prendre ma question. En fait, la question que j'avais, c'était, je voulais savoir en fait, s'il ne s'agissait pas simplement d'une évolution naturelle de la langue française, vu que ben, voilà, les langues évoluent en fonction des échanges qu'il peut y avoir entre les peuples, mais ben, de nos jours, d'une mondialisation accrue, ben, peut-être que cette évolution accélère.
Alors, qui veut répondre? Oui, peut-être Roland Breton, puisque vous êtes linguiste.
L'évolution accélère le développement de toutes les langues, en fait. Et le français a une position qui est quand même une position, je ne dis pas dominante, mais très largement répandue et qui se renforce quand même malgré tout ce que l'on dit. Malgré les emprunts que le français fait à l'anglais, ça n'a aucune importance pour le français. Et l'importance, c'est que le français a un réseau, justement, d'institutions et de populations à travers le monde. Et ça, c'est quelque chose d'exceptionnel qu'il partage avec l'anglais.
Bien.
Oui, mais les emprunts...
Corinne Mallarmé-Mazzocchi.
Les emprunts à la langue, personne n'est contre. Quand vous avez un mot comme radia, personne ne conteste le mot radia. Ce qui est un petit peu contestable, c'était l'idée de Denis Astagnaud de dire le franglais, qui est une espèce de dégénérescence de la langue, qui est un galimatia de n'importe quoi. Et on en arrive à ne plus oublier le vrai mot. Je me rappelle Pitch, entendre un journaliste disant Pitch, cherchant le mot. Non, mais le journaliste disant ah oui, non, mais Pitch, c'est pas bien, mais qu'est-ce que je peux dire? Et voilà.
Mais le français est souvent beaucoup plus précis. Par exemple, en ce moment, nous sommes en live.
Oui.
Alors, est-ce que nous sommes en public ou en direct?
En direct.
Ah oui, mais live veut dire les deux choses.
Voilà.
Oui, donc, mais on n'a jamais dit qu'on était en live ici. Hein. C'est vous qui venez de le dire.
Non, mais justement, c'était une question piège.
Absolument. Bon, merci à tous, en tout cas, parce que je crois qu'on pourrait encore continuer ce débat pendant longtemps, sachant quand même qu'il y a eu des tops et des flops hein, dans les dans les directives de la commission de la langue française, etc. Et que si logiciel est passé naturellement, oui. Il y a d'autres choses comme vol nolisé pour les charters, par exemple, qui ne sont jamais passés dans la langue française. Voilà.
Le courriel parfaitement bien.
Oui, exactement.
Et internaute, et covoiturage, et publipostage.
Et ordinateur, au lieu de computer.
Merci beaucoup, nous avons fini. Merci infiniment. Merci. À demain. Merci. Bonsoir.
C'était Le Téléphone Sonne, une émission dirigée par Denis Astadio.